Ce morcellement de territoire nous permet d'aborder un premier point assez important dans l'histoire qui nous intéresse, puisque petit à petit on va voir que la société occitane qui fonctionnait selon les règles de la féodalité avait en fait quelques différences par rapport aux autres régions de France et par rapport à d'autres pays en Occident, qui fait que finalement cette société occitane était un peu plus en avance, un peu plus ouverte. Un peu plus tolérante également que le reste de la France. Donc petit à petit, on peut s'apercevoir que l'Occitanie offrait un terrain plus favorable à l'implantation du catharisme que d'autres régions de France. Alors cette première différence entre, on va dire, le nord et le sud, pour schématiser, constitue l'héritage des seigneurs. En effet, en règle générale, au Moyen Âge, le droit d'aînesse était utilisé, donc le fils aîné pouvait hériter et il héritait seul, il était héritier unique. Ce qui fait que dans le nord de la France, nous avions des seigneurs qui étaient des grands propriétaires terriens et qui possédaient donc de vastes domaines. Alors qu'en Occitanie, le système germanique du droit d'aînesse n'avait pas été accordé, pardon, et on restait dans le système issu du droit romain, qui permettait le partage à parts égales de tout l'héritage entre tous les enfants garçons et filles. Donc les garçons et les filles avaient les mêmes droits et chaque enfant donc héritait de la même part que ses frères et sœurs. Alors ça c'est une différence quand même assez importante puisqu'on s'aperçoit que du coup il y a beaucoup plus d'égalité par rapport au nord de la France et cela explique également le morcellement des territoires que l'on pouvait voir en Occitanie. Alors, un exemple très simple quand même de ce que peut donner ce système, puisqu'en effet l'avantage c'est qu'il y a plus d'égalité, l'inconvénient par contre c'est que l'on morcelle les territoires. Si vous regardez le panneau numéro 4, vous verrez le plan du village d'Opoul. Et bien sur ce plan, on aperçoit la trace de deux châteaux, le château haut qui a complètement disparu aujourd'hui et le château bas dont il reste encore quelques vestiges. Et bien ce village était découpé en deux, donc chaque partie avait son château puisqu'il y avait deux frères qui avaient hérité, deux co-seigneurs et le village donc avait été partagé en deux. Voilà, donc c'est un système qui est à la fois du pour et du contre hein, puisqu'il peut entraîner pas mal de soucis. Vous avez un autre exemple qui est très frappant. Sur le panneau numéro 2, vous pourrez apercevoir une photo des châteaux de Lastours qui sont au nombre de quatre aujourd'hui. Puisqu'en effet, ben là aussi, il y avait quatre co-seigneurs, chacun donc avait sa partie du territoire et chacun avait fait construire son château pour prouver qu'il était le seigneur du lieu. Ça, c'est également une particularité très importante de la société occitane à cette époque, le fait que chaque seigneur, chaque personnage, si petit soit-il, veuille faire construire un symbole visible de son pouvoir, de son autorité, une tour, un donjon, un château, hein, ce qui fait qu'on a au XIIe siècle un mouvement de construction qui est très important. Et pour vous donner une petite idée, sur le territoire de l'Albigeois, c'est-à-dire le territoire dans lequel nous nous trouvions à cette époque, eh bien, on a pu dénombrer plus de 200 lieux et places fortifiées à cette époque. Voilà pour ce qui est du contexte, je dirais, géopolitique dans lequel le catharisme va faire son apparition. Et si vous avancez un petit peu dans la salle, vous verrez donc le découpage de la société, qui n'est pas différent de ce qui se passait dans d'autres régions de France. Donc la société occitane était, elle également, découpée en trois ordres, ceux qui combattent, dont nous venons de parler, c'est-à-dire les seigneurs, la noblesse, les chevaliers, ceux qui prient, donc les religieux, quels qu'ils soient, hein, catholiques ou cathares, et enfin ceux qui travaillent, c'est-à-dire bien entendu les plus nombreux, les paysans, ceux qui constituent la base de la société, sans qui rien ne peut fonctionner, hein, puisque c'est par leur travail que notamment les autres ordres auront de quoi manger. Et bien là aussi, il est important de s'attarder quelques instants sur le statut des paysans, qui est très différent en Occitanie à cette époque, puisque contrairement à ce qui se faisait dans d'autres régions de France, le paysan en Occitanie avait presque toujours un statut d'homme libre. Il n'appartenait donc pas au seigneur, ce n'était pas un serf, comme dans la plupart des pays au Moyen Âge. Et donc le paysan était libre de partir à tout moment, ce qui fait que là aussi on a une plus grande liberté et il peut y avoir un mouvement de population qui n'était pas possible dans d'autres régions de France. Donc petit à petit, encore une fois, on s'aperçoit que cette société occitane effectivement, est plus en avance, plus moderne, hein, et qu'il y a plus de droits, plus d'égalité et de liberté que dans le reste de la France. Et enfin, pour terminer sur cette introduction générale, vous pourrez également vous apercevoir sur le panneau numéro 12 que l'on évoque donc Raymond de Miraval, un troubadour, hein, puisque les troubadours sont aussi quelque chose de très présent en Occitanie, Ils ont marqué vraiment la société occitane par cette culture très raffinée, les troubadours étant des artistes, des poètes, des musiciens qui sont à l'origine de ce qu'on a appelé le fin amor, l'amour poétique, qui va vraiment marquer la société occitane à cette époque.